Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. La mise en onde est assurée par Lambert Nyozima. À la présentation de cette rétrospective de l'actualité, Jean-Baptiste Bileha, tout de suite les détails. Le Burundi est provisoirement suspendu sur l'agenda périodique du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis ce 4 décembre 2020, sur proposition de l'Afrique du Sud qui préside le Conseil. Les membres du Conseil ont adopté cette décision moyennant des actions concrètes que le gouvernement du Burundi doit faire pour manifester son intérêt de ne pas être sur l'agenda trimestriel. Il s'agit globalement de relever les défis qui persiste à garantir un état de droit et la préservation de l'espace démocratique, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement. Révérien Bazikam pour plus de précisions.
Depuis le 27 novembre 2020, la France, en tant que rapporteur du Burundi au Conseil de sécurité des Nations Unies, avait émis un projet de texte sur le retrait du Burundi à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est réuni sous ce projet du Conseil. Il est suivi des négociations informelles jusqu'au 1er décembre 2020. Ces négociations visaient à avoir un compromis entre les blocs du Conseil sur la question du Burundi. Le premier bloc est fait des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et la Belgique qui ont soutenu que compte tenu des tensions politiques et des droits de l'homme dans le pays, le Burundi devrait rester à l'ordre du jour du Conseil. D'autres, notamment la Russie, la Chine et les trois membres africains du Conseil, s'y sont opposés que le pays devrait être retiré de l'ordre du jour, car il ne représente pas une menace pour la paix et la sécurité internationale, s'appuyant sur le règlement intérieur actuel du Conseil. Les deux parties ont souligné cependant un travail important du gouvernement du Burundi, tout en soulevant une préoccupation constante concernant les violations et les abus des droits de l'homme. Notre source précise qu'en plus d'appeler à la fin des violations des droits de l'homme, le Conseil demande au gouvernement du Burundi de veiller à ce que les auteurs de violations soient tenus pour responsables. Il demande également au gouvernement Burundi et aux Nations Unies de coopérer pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Le Conseil a recommandé que le bureau de l'envoyé spécial pour le Burundi soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, tandis qu'il assure la transition vers la nouvelle présence des Nations Unies au Burundi, dont les détails seront convenus par les Nations Unies et le gouvernement du Burundi. Du côté des autorités burundaises, à commencer par le chef de l'État, et de se réjouir de cette décision. Sur son compte Twitter, le président Évariste Ndayishimiye dit que cela va permettre à son gouvernement de s'atteler au travail de développement d'une des conditions pourraient être suspendues définitivement sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aucun mot sur d'autres conditions, entre autres le respect des droits humains, qui fait défaut à son nouveau régime, selon des différents rapports des organisations de défense des droits humains.
Ce retrait du Burundi sur la liste des pays qui figurent sur l'agenda du Conseil de sécurité a été reçu comme un clin d'œil adressé à l'opposition burundaise pour former un front uni pouvant lutter efficacement au rétablissement d'un état de droit au Burundi. C'est la réaction du porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire, Liberan Hibashirakandi, qui déplore que cette décision tombe au moment où le pays enregistre des victimes de violences politiques. Suivez Liberan Hibashirakandi.
Cette décision du Conseil de sécurité est en fait un clin d'œil adressé à l'opposition burundaise de se restructurer profondément à travers un vaste rassemblement pour se renforcer et avoir le poids et force nécessaires pour exercer la pression sur les institutions internationales. Et MAP Burundi Buhire ne fait que réitérer son appel régulier pour un front commun ou union sacrée de l'opposition à travers un vaste mouvement de changement radical de la gouvernance au Burundi. Nous poursuivrons notre action politique de refondation de la nation burundaise, mais surtout, nous allons déployer une diplomatie active pour alerter les Burundais et la communauté internationale des risques d'implosion du pays. Donc, rien ne change pour MAP Burundi Buhire et c'est un acte politique qui, bien sûr, découle d'un long processus de dialogue entre les différents partis concernés. Le Burundi, les Nations Unies, l'Union africaine, l'EAC, l'Union européenne, les garants de l'accord d'Arusha. Donc c'est un acte politique qui ne change en rien sur le drame que vit le Burundi. D'ailleurs, la situation se détériore depuis l'arrivée au pouvoir de Ndayishimiye. Donc c'est le statu quo, c'est un acte politique et rien n'est perdu. Tout est clair dans le communiqué rendu public par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Que cette décision donne un élan à l'ensemble des Burundais qui souhaitent le retour de la paix, le respect des droits de l'homme, une justice équitable.
Les militaires burundais du contingent MISOM, récemment relevé de la Somalie, s'indignent contre les exercices qui leur ont été réservés après leur mission. Ces militaires qualifient ces exercices d'insensés pour eux parce qu'ils sont réservés aux nouveaux recrues de l'armée. Pour eux, le message important qu'ils devraient recevoir du commandement, c'est à quand le paiement de leurs indemnités à MISOM qui acquisent les arriérés depuis de 11 mois, n'est-ce pas, bon fils Niyongir?
Les militaires qui ont été déjà relevés de la Somalie sont ceux du 52e bataillon AMISOM, 53e bataillon AMISOM et 54e bataillon AMISOM. Il leur a été difficile de rendre visite à leur famille parce qu'ils n'avaient pas de moyens financiers. Pour cause, le contingent burundais de l'AMISOM vient de passer plus de 11 mois sans recevoir leurs indemnités AMISOM. De leur retour des congés, le commandement leur a réservé beaucoup d'exercices militaires, comme les marches de nuit, Muzinda Mudubugu, une marche de plus de 30 km. Le règlement pour les exécutions des exercices d'infanterie communément appelés parades militaires et bien d'autres. Pour ces militaires qui se disent fatigués par cette formation, l'important serait plutôt de leur informer à quand le paiement de leurs indemnités AMISOM.
Même si nous sommes contraints d'aller dans des formations d'éthique militaire, il devrait y avoir un message d'apaisement des esprits de la part du commandement sur ces arriérés et le retard de nos indemnités à mission. Envoyer quelqu'un en provenance de la mission jusqu'ici impayé dans une formation militaire, c'est presque une torture morale et c'est la première fois depuis le début de cette mission que nous n'avons pas eu d'explication de la part du commandement. Mais ce n'était pas nécessaire de nous envoyer dans une formation de nouveau recrue de l'armée. Sur le contingent burundais est victime de ce retard des indemnités à mission. Les militaires en provenance des autres pays, contributeurs de troupes, ont déjà eu leurs indemnités. Nous aussi, nous avons besoin de recevoir notre part.
Ces militaires demandent d'être informés du problème réel qu'auraient rencontré leurs indemnités à MISOM, du moment que depuis le début de cette émission, c'est la première fois qu'ils accusent un retard de paiement d'une durée aussi longue que celle-ci.
Nous les militaires, nous avons besoin d'être informés de la situation réelle de nos indemnités. Cette demande est adressée au commandement. Nous entendons seulement les rumeurs. Nous avons soif de l'information délivrée par le commandement pour que nous puissions continuer de vaquer à nos activités quotidiennes.
Certains de ces militaires nous ont révélé en outre qu'avant d'être enrôlés sur la liste prêt déploiement, ils avaient payé de pots de vin à certains responsables de l'armée. La rédaction de la radio Inzambaga Tekakawe n'a pas encore eu la version officielle de l'armée sur ce retard de paiement des indemnités à MISOM via le porte-parole de l'armée, le colonel Floribert Biyerek.
Les parents qui ont envoyé des enfants pour poursuivre les études en dehors du pays sont désespérés à cause du manque de devises dans le pays. Les parents qui veulent envoyer du Minerva ou des frais de subsistance à leurs enfants doivent adresser une requête à l'autorité de la Banque Obu, la seule banque autorisée à échanger le franc burundais en monnaie étrangère. Eddie Claudina Hazoué nous en fait le point.
Il s'agit d'un des parents qui s'insurge contre la lenteur dans l'octroi de devises pour subvenir aux besoins de son enfant qui suit les études à l'étranger. Avoir des devises au Burundi est devenu casse-tête. Les informations détenues par la radio Izamba auprès du personnel bancaire au Burundi sur la Banque Obu ont le monopole de sortir les devises depuis un certain temps, en témoigne notre source.
Banque Obu est la seule banque qui a le monopole de sortir les devises. Pour les nouveaux cas des parents dont les enfants étudient à l'étranger, on nous demande si nous sommes clients de la Banque Obu. Dans le cas contraire, on t'envoie vers la banque où tu es propriétaire d'un compte.
Ses parents indiquent qu'ils doivent introduire une requête à l'autorité de la banque au bout. En plus d'une motivation, on doit détenir un compte bancaire dans la dite banque. Ses parents ne savent à quel sens se vouer aussi longtemps que les requêtes des adressés pour bénéficier des devises en échange de leur dépôt bancaire en monnaie locale restent lettres mortes. Et ils sont inquiets de la survie et du sort de leurs enfants en études à l'étranger sans subside.
Ce qui est pire encore, on nous a informé que ce mouvement de sortie des devises ne s'appliquera plus comme avant. Nous allons seulement bénéficier de devises pour les frais scolaires, pas de devises pour les frais de subsistance. Comment nos enfants vont-ils vivre?
Nous avons tenté de joindre l'administrateur directeur général de la Banque au bout sur son portable sans succès. Rappelons que le gouvernement, passant par la Banque centrale fin septembre 2019, a pris la décision de fermer le bureau de change dans tout le pays dans le but de limiter le mouvement des espèces sans devise et sauver le franc burundais qui dégringolait sur une allure inquiétante.
30% des malades du sida au Burundi sont porteurs de l'hépatite B et C, d'où le besoin de sensibilisation davantage pour limiter les contaminations. Annonce a été faite par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Tade Ndikumana. C'était dans les cérémonies de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année.
Ce n'est plus un secret, le sida est parmi nous, parce qu'en 2010, au Burundi, les porteurs du VIH-Sida étaient estimés à 6%, mais en 2017, on était à 0,9% des malades. Ces avancées ne doivent pas nous distraire, car notre vision Burundi, c'est d'atteindre l'élimination du VIH à l'horizon de 2030. Cela va nous permettre aussi de s'impliquer davantage dans la lutte contre les hépatites, parce que le sida et les hépatites B et C présentent les mêmes signes et passent par les mêmes modes de contamination. Cela veut dire que se prévenir du sida va de pair avec les hépatites B et C. 30% des porteurs du VIH au Burundi sont également malades des hépatites.
C'est un mouf de soulagement. Fonds de 9 milliards de francs rwandais a été mobilisé pour soutenir les réfugiés et les citoyens rwandais avoisinant les camps des réfugiés. Ce fonds mis en place par le gouvernement rwandais en collaboration avec la Banque mondiale aidera cette catégorie de gens dans les travaux de développement. Les détails avec Audace Nimbona.
Comme l'a annoncé le journal Igihe dans son article publié le 1er décembre 2020, le fonds est constitué de 9 milliards de francs rwandais, soit 9 millions de dollars américains. Il sera au service des réfugiés qui sont sur le sol rwandais et à celui des citoyens rwandais qui habitent dans les environs des camps des réfugiés. Pour un crédit de moins de 5 millions de francs rwandais, l'intéressé remboursera 50% et le reste subventionné par la Banque rwandaise de développement, BRD, qui héberge le fonds. Les bénéficiaires du crédit, variant entre 5 millions et 25 millions, rembourseront 60% du crédit et 40% sont subventionnés. Pour un crédit de plus de 25 millions, le débiteur payera 70% et le reste par la Banque rwandaise de développement. Selon Madame Karemera Claire, représentante du projet Jimbere, indique que l'objectif du dit projet est de financer les réfugiés et les citoyens rwandais dans leurs activités de développement familial.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité que j'ai eu le privilège de vous présenter. Je vous souhaite de passer un très bon week-end chez vous. Au revoir.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.